Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakis avec vous pour développer les nouvelles du monde. 12h à Washington, 17h temps universel, 18h à Bangui en Centrafrique, 17h à Ouagadougou au Burkina. D'abord, l'actualité en Afrique. Investi pour un nouveau mandat de 5 ans, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé de ses voeux la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle promettant de renforcer la réconciliation, de mieux redistribuer les richesses du pays et de rédiger une nouvelle constitution. Lionel Gahim.
La main droite levée devant les membres du Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara, 73 ans, a juré de respecter et de défendre fidèlement la constitution de son pays. Vêtu d'un costume sombre, il a ajouté « Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment ». La cérémonie s'est déroulée à Abidjan en présence du président sénégalais Macky Sall, son homologue béninois Thomas Boni Yayi et le corps diplomatique. Le Conseil constitutionnel a validé hier sa réélection dès le premier tour avec 83,66% du suffrage. Alassane Ouattara a commencé les consultations pour former une nouvelle équipe gouvernementale. Il a aussi promis une réforme de la Constitution. M. Ouattara a largement dévancé Pascal Afinguessan, candidat du Fonds populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo. Une partie du FPI avait appelé au boycott de l'élection par loyauté à l'ancien président ivoirien qui attend son procès à la Cour pénale internationale. Des législatives doivent être organisées dans les deux prochains mois en Côte d'Ivoire.
Lionel Gahima, au Togo, 8 organisations de journalistes dénoncent l'article 497 du nouveau code pénal qui prévoit des peines de prison de 6 mois à 2 ans en cas de délit de presse. L'adoption de ce nouveau code pénal intervient alors que plusieurs journalistes sont inculpés et sous contrôle judiciaire suite à une plainte du ministre des Finances accusé de détournement d'argent par 3 journaux de la presse privée. Nathalie Barge a joint à Lemay l'un de ses journalistes, Carlos Keto.
Nous n'avons rien contre le code pénal dans la mesure où la justice togolaise devrait être dotée des instruments modernes afin de pouvoir traiter la question des pénalités. Mais seulement, nous, au niveau de la presse, nous nous insurgeons contre l'article 497 qui remet en cause la question du code de la presse qui a été dépénalisé depuis 2004. Au Togo, le code de la presse dispose des formules qui permettent aux journalistes de pouvoir réparer des torts causés à d'éventuelles victimes par certaines dispositions, notamment le droit de réponse, notamment des démentis, notamment le règlement à l'amiable. Il y a la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a aussi des pouvoirs régaliers. Il y a le tribunal des pairs qui est l'observatoire togolais des médias. On ne comprend pas pourquoi, de façon spectaculaire, le gouvernement togolais a introduit une disposition liberticide dans le code pénal en vue de punir les journalistes de la façon la plus sévère sur les questions du délit de presse. C'est une atteinte à la liberté de presse et au niveau de toutes les organisations, nous nous insurgeons et nous allons mobiliser.
Carlos Ketou, président de Journalistes pour les droits de l'homme au Togo. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour en Centrafrique. L'insécurité pousse la population à se déplacer vers les sites de réfugiés. Pour faire le point de la situation, Pascaline Magalé a joint la ministre des Affaires sociales, Eugénie Yarafa.
La situation humanitaire, on est à la case départ avec tous les événements que le pays vient de connaître. En commençant par les événements du 26 septembre, pendant qu'on était à New York pour la participation du pays à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. De retour, nous avons commencé à assister nos compatriotes, notamment les victimes qui étaient dans les hôpitaux et puis les parents des décédés. Au niveau du gouvernement, nous avons commencé à les assister et au niveau de la présidence également, Son Excellence Madame la Présidente de la République nous a instruit, elle-même elle est descendue sur le site pour commencer à compartir avec ses compatriotes et nous on a continué sur le site malheureusement les derniers événements encore du 26 octobre ont poussé beaucoup de nos compatriotes à aller sur le site notamment dans le sud-ouest de la capitale.
Le ministre des Affaires sociales, Eugénie Yarafa au micro de Pascaline Magalé. Des affrontements entre les forces gouvernementales et celles du principal parti d'opposition Mozambique, la RENAMO, ont fait plusieurs morts depuis la semaine dernière dans le centre du pays. C'est ce qu'a affirmé la police mozambicaine aujourd'hui, Jacques Aristide.
Le porte-parole de la police, Ignacio Dina, n'a pas avancé de bilan des pertes humaines, mais a assuré que les chiffres qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, plus de 200 morts, sont faux. Les pertes humaines et matérielles existent, dit-il, mais elles ne sont pas de cette ampleur. Les affrontements entre l'armée et la RENAMO, qui contestent toujours le résultat des élections d'octobre 2014 et menacent de prendre le pouvoir par la force dans le centre et le nord du Mozambique, ont repris la semaine dernière dans le district de Morumbala, où la RENAMO a récemment installé une nouvelle base. L'AFP rapporte que le ministre de l'Intérieur, Basilio Montero, a fait savoir que la police poursuivrait son opération de récupération des armes de la RENAMO jusqu'à ce que leur dernière base soit désactivée.
Jacques Aristide, en Égypte, les enquêteurs devaient commencer aujourd'hui à décrypter les boîtes noires de l'Airbus russe pour déterminer si son crash a été provoqué par un accident ou un attentat. Mais le président égyptien a prévenu que l'enquête pourrait être longue. Afrique du Sud, le parquet a tenté ce mardi de convaincre la cour d'appel que la mort de Riva Steenkamp, la petite amie d'Oscar Pistorius, est un meurtre et non un homicide volontaire. Aujourd'hui, à l'ouverture du procès en appel du champion paralympique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Tour du Faso avant de développer les nouvelles dans le reste du monde. L'Érythréen Michael Abtom a remporté ce mardi la cinquième étape du Tour du Faso entre Koudougou et Boromo, longue de 115 km. La course a connu une chute à 1 km de l'arrivée et a contraint le capitaine malien Tidiane Sanogo à finir la course sur le vélo d'un villageois. Notre correspondant sur le Tour, Salif Kabore, nous relate les faits.
Le coureur malien Tidiane Sanogo, qui a terminé la course sous le vélo d'un villageois, est la principale victime dans cette chute.
Ce qui s'est passé à l'arrivée, lorsqu'on a lancé les sprints, il y a un blanc qui a accroché un autre. Ils ont fait tomber les gens quand même. Et je pense que toutes les équipes du Mali et Côte d'Ivoire et d'autres blancs, on est tombés quand même. Je me suis levé, mais j'ai trouvé que mon vélo s'est cassé. Les derrière s'est caché. Je n'ai pas d'autre choix. C'est à 1 km. On ne peut pas réparer le vélo pour arriver. Je me suis cherché un autre vélo du villageois pour faire l'arrivée, pour ne pas perdre mes temps quand même. Et c'est comme ça qu'on a fait l'arrivée d'aujourd'hui.
Dans ce lot, les Ivoiriens payent également le prix. Et Bachirou Conté raconte.
En fait, l'étape, on voulait la gagner, on l'a perdue, donc ça nous fait mal. Il y a eu des chutes à l'arrivée, donc ça crée des dégâts. On se bat, on est 7e au général, donc on se bat toujours. Il y a des pays qui n'ont même pas la 50e place ici, donc la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. À l'arrivée, j'ai un coéquipier qui n'arrivait pas à bien lancer. J'ai crié qu'il quittait, mais il n'arrivait pas, il ne comprenait pas.
Tu n'as pas de coordination?
Non.
L'Érythréen Michael Abtom a enlevé la course de 115 km 700 en 2h 40 minutes 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,350 km/h. Boromo, sous la route du Tour, Salif Kabore, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé sa ligne de fermeté après son triomphe électoral en poursuivant ses opérations contre les rebelles kurdes et la répression de ses adversaires, malgré les critiques qui s'inquiètent d'un nouveau tour de vie autoritaire. Un haut responsable syrien, Faisal Mokdad, a affirmé aujourd'hui qu'il n'était pas question d'une période de transition en Syrie, alors que des pays occidentaux et l'opposition insistaient sur une transition sans le président Bachar al-Assad. En juin 2012, lors de la conférence internationale sur la Syrie dite de Genève 1, les grandes puissances avaient convenu l'idée d'une autorité gouvernementale de transition dotée des pleins pouvoirs qui préparerait la tenue d'élections en Syrie. Vendredi à Vienne, les pourparlers entre les acteurs du conflit syrien ont buté sur de nombreux points, dont le principal est le sort de M. Assad. Les participants en discussion vont se retrouver à nouveau à la mi-novembre, mais ni le régime ni l'opposition syrienne n'étaient pas représentés. L'armée américaine, pour terminer, continuera ses manœuvres en mer de Chine méridionale, partout où elle en a le droit, a assuré aujourd'hui l'amiral Harry Harris, peu de temps après le passage des navires de guerre des États-Unis près d'îlots dont la Chine dispute la souveraineté à ses voisins. Fin de ce journal, le prochain dans 20 minutes avec Gabi et Morgane dans Le Monde Aujourd'hui. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.